Informés et rassurés, les loyalistes poursuivent leur tournée d'information. Après Bouraille et Koné, ils étaient à Païta hier soir. Reportage dès le début du journal. Un budget prudent pour la mairie du Mont-d'Or, en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Il se monte à 5 milliards 100 millions de francs. Oui, mais pas maintenant. Le président russe dit soutenir l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais cet arrêt des combats doit, selon lui, traiter les causes profondes de la crise. C'est ce qu'il a déclaré la nuit dernière. Le sport en biathlon, une victoire française. Julia Simon remporte l'individuel en Slovénie. Quant à Lou Jean Monod, 7e du jour, elle avait suffisamment d'avance pour remporter le globe de la spécialité. La météo sur l'ouest, le ciel est très nuageux et une averse isolée est possible. Ailleurs, le ciel reste plus chargé avec des averses isolées en général. Les loyautés sont en vigilance jaune pour des vents violents jusqu'à 40 nœuds. Les températures maximales, comprises entre 27 et 32 degrés, sont en légère hausse.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, les loyalistes vont donc à la rencontre des Calédoniens. Ils mènent une tournée d'information pour revenir sur la visite de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, et faire le point sur les discussions en cours. Après Bouraille et Koné, ils étaient hier soir au centre socio-culturel de Païta pour répondre aux questions, mais aussi aux inquiétudes de la population, qui s'interroge notamment sur le document publié par l'État. Sonia Bakès, la présidente des Républicains calédoniens, estime que ces réunions publiques ont toute leur utilité.
Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi, parce que je pense que autant les gens étaient rassurés de voir qu'on était capable de se retrouver, autant la publication du document a laissé plus de questions, d'inquiétudes que d'éléments rassurants. Donc on explique aussi notre position, on explique aussi ce sur quoi on sera ferme et ce sur quoi on peut discuter. Donc je pense que c'est toujours mieux pour les Calédoniens de savoir, même si tout n'est pas toujours rassurant, plutôt que d'imaginer.
Les questions du public traduisent une certaine inquiétude et les élus ressentent un besoin de rassurer la population.
Les questions reviennent, c'est le droit à l'autodétermination, le corps électoral, qu'est-ce qui va bouger? Est-ce qu'il y a un risque qu'on nous impose une indépendance par la force? Est-ce qu'il y a un risque qu'on nous impose un nouveau référendum? Est-ce que, bon, les questions sont toujours plus ou moins les mêmes? Et la réponse est simple, c'est que personne ne peut nous imposer ni un nouveau référendum, ni une indépendance sans modification de la Constitution et que je ne crois pas que le président de la République acceptera de modifier la Constitution dans ce sens.
Sonia Bakès était en compagnie du député de la première circonscription Nicolas Metzdorf, du vice-président de la province Sud Gilles Brial et de la maire de Païta Marilyn D'Arcangelo. Écoutez la réaction de quelques participants à l'issue de cette soirée d'information.
Ce que je retiens beaucoup, c'est cet appel à la confiance, cet appel à l'échange, surtout cet appel au travail que nous devons chacun de notre côté faire.
Oui, beaucoup d'interrogations de la part des gens parce qu'on est dans l'incertitude totale. Mais si nos dirigeants indépendantistes et surtout nos loyalistes arrivent à trouver un accord concret avec la partie adverse, ça sera merveilleux. Du positif, du négatif, on est dans l'incertitude, on attend qu'un accord se crée, en espérant qu'il se crée avec tout le monde.
Ce que j'ai retenu, c'est que c'est mal parti. Je pense que les gens, ils sont saturés de tout, c'est tout, on n'avance pas. Puis on n'a pas de perspective d'avancer, puisque le ministre des Outre-mer, il vient le 29, il repart le 1er. C'est pas en 3 jours qu'on va trouver un accord. Et puis pendant ce temps-là, ça repart, là. Il y a des bagarres partout, il y a de la casse partout en Calédonie. Donc, je suis un peu sceptique sur l'avenir.
Retenu que tu vas aller rester solidaire déjà, garder la confiance, car les discussions ne sont pas faciles, mais qu'ils ne changeaient pas de cap sur la Calédonie française. Surtout de dire que peu qu'importe, on va être dans la France et pas en dehors de la France, c'est-à-dire qu'il y a le problème du mot du lien, c'est pas le lien avec la France, c'est le lien à l'intérieur de la France.
Et beaucoup de questions du public ont porté aussi sur la recrudescence des actes de délinquance constatés ces derniers jours. L'actualité institutionnelle est cette séance publique au Congrès ce matin à partir de 8h30. Les élus procéderont au débat d'orientation budgétaire à partir du texte adopté mercredi par le gouvernement. Un débat qui doit précéder de quelques jours l'examen du budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie, dont l'adoption doit intervenir avant le 31 mars. Les élus de la ville du Mont-d'Or étaient quant à eux réunis pour un conseil municipal hier soir, après le débat d'orientation budgétaire le mois dernier. Le budget primitif de la commune a cette fois-ci été voté. Un budget en baisse par rapport à l'année dernière. On notera notamment des efforts faits sur les dépenses de fonctionnement, Léana Colombo.
Oui, c'est un budget prudent, rigoureux, selon le maire de la commune, Eddy Lecourieux. La ville du Mont-d'Or, comme toutes les collectivités, a dû faire face à une baisse importante de recettes pour construire son budget. Il s'élève finalement à 5 milliards 100 millions de francs, contre 6 milliards et 500 millions l'année dernière, soit une baisse d'un peu plus de 20%. Qui dit baisse des recettes dit forcément baisse de dépenses. La municipalité a fait le choix de négocier un report de la dette. Il n'y aura donc pas d'emprunt cette année. Le report a été accepté par les banques, mais à condition d'efforts réalisés par la ville. Le choix a été fait d'agir sur les dépenses liées au fonctionnement de la collectivité, plus précisément sur des postes qui, comme l'explique le maire du Mont-d'Or, Eddy Lecourieux, ne sont pas tous renouvelés.
Moi, je voulais déjà dire que ces efforts, ils ont été salués par les prêteurs, hein, puisqu'on a pu avoir un prêt l'année dernière. On n'en a pas sollicité cette année. On aurait pu en avoir un. Mais je pense que la commune est suffisamment endettée. On va essayer les uns les autres de réduire encore la voilure. On a eu à licencier un certain nombre d'agents qui étaient en contrat à durée déterminée. On a des gens qui sont partis à la retraite. Nous avons des agents qui ont eu des mutations. Donc tous ces postes n'ont pas été renouvelés. Et nous avons diminué également le coût des personnes de remplacement. Voilà. Donc on a fait les efforts qu'il fallait pour que nous soyons sérieux auprès des banques.
Sur les 45 postes vacants, seule une dizaine seront renouvelés, une économie estimée à 184 millions de francs. Les dépenses liées aux agents de la ville représentent un peu moins de 45% du budget de fonctionnement. Concernant le budget d'investissement, il est lui aussi revu à la baisse. La commune a décidé d'utiliser les fonds disponibles pour privilégier certains axes, notamment l'aide sociale. Les subventions du CCAS et de la Caisse des écoles sont maintenues à l'identique cette année. Sur le volet sécurité, le nombre de policiers municipaux est maintenu. Des systèmes de vidéoprotection vont être remis en service dans la ville et un nouveau centre de secours sera notamment construit au cours de l'année. Ce budget a donc été présenté à l'ensemble des élus du Mont-d'Or hier soir, voté et adopté, mais sans vote unanime. Le groupe L'Éveil Océanien, représenté par Petelo Sao, s'est abstenu. Les membres du groupe Génération Mont-d'Or ont quant à eux voté contre ce budget pour plusieurs raisons que nous détaille l'élu du groupe Nina Julier.
Nous considérons que les priorités qui auraient dû être proposées et qui auraient dû se traduire d'un point de vue financier, c'est d'abord reconnaître les victimes du 13 mai, arrêter de financer des subventions à la tribu de Saint-Louis ou des routes ou je ne sais quoi et utiliser cet argent pour créer un fonds de solidarité pour les Mont-d'Oriens du Sud. Deuxième priorité, la sécurité. On voit bien que nos policiers municipaux ont fait grève derrière manque, qu'ils sont sous-dotés, pas formés. Donc il y a un gros souci de gestion de cette police municipale. Et puis enfin, le développement économique. Et là, clairement, on aurait aimé qu'il y ait même symboliquement des actions d'accompagnement, d'aide pour tous ces patentés, pour tous ces entrepreneurs qui souffrent aujourd'hui.
Une posture qui a suscité de vives réactions auprès des élus de la majorité hier soir. On retrouve le maire de la ville du Mont-d'Or, Eddy Lecourieux.
L'attitude de l'opposition aujourd'hui était extrême. Hein. Ils ont rapporté leur sujet magique, c'est vous donnez trop pour Saint-Louis, c'est vous en faites pas assez pour les victimes des événements, c'est vous n'aidez pas assez l'économie. Enfin, c'est tout un tas de sujets qui, soit la sécurité qui a trait à l'État, soit l'économie qui est un vrai sujet qui est porté par la province, mais pour laquelle nous mettons notre part. On a vu énormément de choses détruites et on a l'impression que c'est que l'opposition qui se soucie des cœurs. Voilà, nous, nous sommes les bourreaux. Nous, on soutient Saint-Louis. Ça n'a jamais été notre intention de stigmatiser une partie ou l'autre de la population. Je pense que ce n'est pas en ayant un comportement comme ça qui fera qu'on sortira grandi de toute cette mauvaise aventure, quoi.
Pour rappel, le budget primitif adopté pour cette année 2025 est de 5 milliards 100 millions de francs, soit une baisse de plus de 20%. La ville du Mont-d'Or, qui, comme d'autres collectivités, espère recevoir au plus vite les aides de l'État.
Et puis l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie était réunie hier à Boulou-Paris pour son assemblée générale. À l'ordre du jour, le bilan du déplacement du président de l'AFM, Pascal Vittori, à Paris en début d'année. L'économie et la reconstruction étaient également au cœur de cette assemblée générale, avec un point sur le financement des communes réalisé par le président du gouvernement, Alcide Ponga. Écoutez les précisions du président de l'Association française des maires, Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris.
On a reçu le président du gouvernement, hein, ce qui est une nouveauté pour nous. Donc il est venu faire la situation financière du gouvernement, mais aussi des collectivités au travers du budget de répartition. Bon, il nous confirme qu'on n'a pas de réponse officielle aujourd'hui de l'État sur le montant de l'aide qui va être apportée pour compenser les baisses de recettes fiscales des collectivités calédoniennes. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que même si on n'atteindra pas le niveau de 2023, c'est-à-dire d'avant la crise, on va s'en rapprocher en 2025. Et donc, ce sera mieux pour les communes de Nouvelle-Calédonie. Et puis, on a eu également une présentation de l'AFD qui a fait un point sur la situation des communes et sur les possibilités financières qu'elle peut apporter aux différentes communes de Nouvelle-Calédonie.
Et au programme également de cette Assemblée Générale, la présentation de la Banque des Territoires. Le membre du gouvernement, Christopher Gigès, était également présent pour évoquer la création d'un guichet unique reconstruction. Vos rendez-vous sur notre antenne, notez que c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Alors, quelle est la situation de la commune 10 mois après le 13 mai 2024? Va-t-elle pouvoir poursuivre les investissements et quelles sont ses priorités? Et quel est son avis sur les discussions concernant l'avenir institutionnel? Sonia Lagarde, invitée de Transparence, est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis, quel bilan peut-on dresser de la présence d'une délégation calédonienne au Salon de l'agriculture? Nous en parlerons tout à l'heure avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou. Il sera en effet notre invité du matin à 7h30. L'occasion aussi de faire le point sur les différents sujets qu'il a abordés avec les interlocuteurs institutionnels qu'il a pu rencontrer au cours de son séjour, à la fois à Paris et à Bruxelles. En attendant, il est 6h41, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale et notamment ses pourparlers concernant un cessez-le-feu en Ukraine.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Boîte aux lettres inaccessible, optez pour la facture par email avec Calédonienne des Eaux. Recevez-la par email et soyez alertés pour les délais de paiement. Assurez-vous de toujours avoir de l'eau potable. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et après les négociations en Arabie Saoudite, rapprochant Américains et Ukrainiens autour d'une proposition de trêve de 30 jours, c'est au tour de la Russie de se prononcer sur la question. Vladimir Poutine est apparu cette nuit en treillis dans la région de Koursk, entouré de généraux, encourageant les soldats russes sur place. Il était accompagné pour l'occasion du président biélorusse Alexandre Loukachenko et les télévisions du monde entier étaient évidemment braquées sur lui. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne semble pas très pressé de signer un accord de trêve, Wilfried de Villers.
Oui, le président russe dit soutenir l'idée d'un cessez-le-feu, mais avec des nuances et en l'état pas maintenant. Écoutez Vladimir Poutine, il s'exprimait tout à l'heure.
Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités, mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise.
Vladimir Poutine ne dit donc pas clairement oui à ce cessez-le-feu, lui qui depuis le début de la guerre a toujours refusé l'idée d'une trêve. Aujourd'hui, il le répète, il lui faut des garanties pour que cette pause des combats ne donne pas un avantage à l'Ukraine.
Comment pouvons-nous être assurés qu'un réarmement ukrainien ne se produira pas? Comment le contrôle sera-t-il organisé? Ce sont vraiment des questions sérieuses.
Des questions, des conditions, notamment sur le contrôle du respect du cessez-le-feu. Et pas question que ce soit des troupes européennes qui s'en occupent, à rappeler le Kremlin plus tôt dans la journée. En tout cas, le dialogue semble désormais ouvert. Vladimir Poutine évoque même un possible appel téléphonique avec Donald Trump et il pourrait rencontrer ce soir l'émissaire américain de la Maison-Blanche sur les dossiers internationaux les plus sensibles. Steve Witkoff est arrivé à Moscou aujourd'hui. De son côté, Donald Trump juge prometteuses les déclarations russes, mais incomplètes. Un rejet russe serait très décevant, a-t-il martelé ce soir. En attendant, sans oui clair de Vladimir Poutine, Moscou maintient, accentue même sa pression sur le front, notamment dans la région de Koursk, où l'armée russe est à nouveau en position de force. De quoi peser dans les négociations à venir.
Wilfried de Villers pour Europe 1, noté que les autorités ukrainiennes ont de leur côté ordonné l'évacuation de 8 localités situées dans la région de Koursk où les forces de Moscou ont réalisé d'importantes avancées ces derniers jours. En métropole maintenant, l'ensemble des forces politiques étaient réunies cette nuit pour nous par François Bayrou et Sébastien Lecornu. Réunion également avec les chefs d'état-major des armées pour faire le point sur la situation ukrainienne mais aussi le réarmement. Il était important, dit le Premier ministre, qu'il y ait une solidarité nationale autour de ce sujet. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, avec cette rencontre au ministère des Armées, François Bayrou voulait susciter l'unité.
C'était précis, approfondi, utile. C'est un moment qui exige beaucoup de solidarité nationale. C'est exactement ce que nous avons bâti cet après-midi.
Mais à la sortie, pas d'unanimité. La députée européenne insoumise Manon Aubry se montre dubitative.
On a le sentiment de rester un petit peu sur notre faim, que la France et l'Union européenne se bornent à organiser des réunions d'information, faute d'être au premier rang pour organiser le chemin de la paix.
Quand de l'autre côté de l'échiquier, Marion Marion Maréchal dénonce un énième coup de com.
On a quand même, en tout cas pour ma part, le sentiment que tout ça relève davantage d'une opération de communication voulant montrer une volonté gouvernementale que véritablement des actions très concrètes, très bien définies.
Vous n'avez rien appris cet après-midi ?
Écoutez, je ne vais pas vous mentir, rien de très nouveau.
Cela toutefois un mérite, permettre à François Bayrou de se déployer sur un sujet jusqu'ici préempté par Emmanuel Macron.
Et pendant ce temps-là, Donald Trump continue, lui, de mettre la pression. Le président américain annonce qu'il va décréter une augmentation des droits de douane de 200% sur les vins et spiritueux européens si l'Union européenne ne retire pas son projet de taxer à 50% le bourbon américain. Les vignerons français sont évidemment très inquiets après cette annonce. Écoutez ce producteur alsacien qui exporte 20% de son vin et principalement aux États-Unis. C'est donc forcément une mauvaise nouvelle pour lui.
C'est vraiment gênant et inquiétant quand même pour nous. Toute la profession va en pâtir, je pense. Notre vin va se trouver très très cher aux États-Unis. La population peut dire, bon maintenant on va s'orienter sur du vin chilien ou du vin argentin. Ouais, ça va être chaud pour nous. Je vous cache pas que j'ai déjà réorienté mes recherches à l'export sur l'Asie. Donc à tel point que j'ai déjà eu un bon contact avec la Thaïlande, curieusement. Bon, je garde bien sûr contact avec mes importateurs américains, mais on espère que ça va pas durer dans le temps, quoi.
Le producteur alsacien Étienne Dreyer, qui est lassé de voir que les vignerons français sont trop souvent la variable d'ajustement dans les conflits internationaux. Il espère maintenant que l'Union européenne retirera le projet de taxe sur le bourbon américain pour calmer le jeu. L'actualité dans la région maintenant à Port-Moresby. Le Parlement papou vient de voter un amendement constitutionnel reconnaissant le christianisme comme étant la religion officielle du pays. Et c'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
Le projet d'amendement de la Constitution a recueilli une écrasante majorité de 81 voix pour et 4 seulement contre. De plus, le christianisme sera désormais inscrit dans le préambule de la Constitution, tandis que la Bible sera reconnue comme symbole national. Fervent défenseur du projet, le premier ministre papou, James Marape, s'est dit satisfait du résultat. « Je suis heureux, a-t-il dit, car cet amendement constitutionnel reconnaît enfin notre pays comme un pays chrétien et reflète au plus haut point le rôle que les églises chrétiennes ont joué dans notre développement national. Elles ont ancré l'unité et la cohésion du pays, a-t-il insisté, avant de souligner l'important rôle qu'elles tiennent toujours dans la prestation de services, là où la présence gouvernementale est limitée. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et j'ajoute que James Marape a également précisé que l'amendement ne porte pas atteinte aux droits des personnes pratiquant d'autres religions. Il a ajouté que l'article 45 de la Constitution papou, qui protège la liberté de conscience, de pensée et de religion, reste intact. Il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Et on reviendra notamment sur ces annonces, en tout cas ces projets du gouvernement, notamment de déplacer le trafic aérien domestique de Magenta vers Tontouta.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Tu étais où ?
Avec Max, à la maison.
Max ? Mais c'est qui Max ?
Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois ? Ah ouais, c'est génial !
Allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficiez d'un tarif remis à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Découvrez le système GE, l'un des meilleurs outils associatifs économico-sociaux reconnus en Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Nous avons eu l'honneur d'accompagner plus de 1500 demandeurs d'emploi locaux dans leur parcours vers l'obtention d'un contrat de travail grâce à notre système GE. De plus, 150 entreprises locales ont fait le choix d'utiliser cet outil innovant pour dynamiser leurs activités. Si vous êtes gérant d'entreprise et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 746 726. Pour les demandeurs d'emploi, nous vous invitons à composer le 30 77 27. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre bureau situé à Coney.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la suite du journal, c'est l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Et la police était hier sur le terrain à la pause déjeuner dans le centre-ville de Nouméa pour effectuer une opération de sécurisation et de contrôle. Une soixantaine de membres des forces de l'ordre ont inspecté durant plusieurs heures le quartier asiatique, Léana Colombo.
La zone qui était pour l'occasion quadrillée par la police nationale mais aussi municipale, la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la direction des risques sanitaires de la ville de Nouméa étaient présentes. Bilan principal des opérations, 6 interpellations pour possession de stupéfiants, de l'argent liquide et de nombreux sachets de cannabis saisis. Les auteurs des faits ont ensuite été placés en garde à vue. Chinatown, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard car réputé pour être un gros point de deal, explique le contrôleur général Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale.
Ce quartier est un lieu où il faut être attentif à l'insécurité, être attentif à toute forme de délinquance comme la vente de stup. C'est un de nos objectifs avec le haut commissaire, le maire et le procureur pour rendre, je dirais, la tranquillité à ce quartier. On monte cette opération en fin de matinée parce qu'évidemment, les gens qui sortent du travail sont ravis, j'imagine, et de voir de la police quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont déjeuner. Il est évident que, on va dire que le trafic du quotidien, le trafic qui se fait dans les rues de Nouméa, c'est en majorité de l'herbe de cannabis. Mais pas que, parce qu'on se rend compte avec une affaire récente qu'il peut y avoir aussi des produits stupéfiants de soirée, qu'on appelle de soirée, qui peuvent circuler, évidemment.
Avec ces dispositifs anti-drogue, l'objectif de la police est clair, il faut occuper le terrain et se rendre visible des dealers pour lutter contre la délinquance et l'insécurité. Et pour les habitants du quartier, c'est un vrai soulagement de voir ce genre d'opération se mettre en œuvre.
Des fois, on a peur de passer là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais pas si ils vont prendre ton sac ou pas.
Non, c'est pour la sécurité, pour ici, parce qu'il y a des jeunes qui vendent le cannabis.
Mais il y a trop de jeunes autour. Il y a caméra, il y a tout, ça bouge pas assez. Voilà.
Ça permet de diminuer un peu la délinquance ici sur le quartier, ici, là. Parce que sur le quartier, je pense que il y a toujours des jeunes qui voient des trucs comme le cannabis et tout. Et cela permet de diminuer. Puis pourquoi pas en finir avec ça.
Durant près de 2 heures, 28 commerces ont été contrôlés. On notera également que plusieurs procédures ont été ouvertes. Une pour étrangers en situation irrégulière, une pour travail dissimulé et une pour emploi d'un étranger sans titre de travail. 6 infractions ont aussi été relevées par la DAE. L'année dernière, une opération s'était notamment déroulée autour de Magenta, gros point de deal connu à Nouméa.
En bref, je rappelle que 4 hommes ont été arrêtés après la violente agression d'un militaire à Nouméa. La victime se rendait au cinéma vendredi dernier vers 21h lorsqu'elle a été violemment passée à tabac pour lui voler ses effets personnels. Les 4 prévenus comparaîtront devant le tribunal correctionnel le 6 mai prochain. En attendant, 2 prévenus présentant des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Transporté au centre hospitalier, le militaire présentait plusieurs fractures au niveau de la bouche et du visage, justifiant un nombre encore indéterminé de jours d'ITT. Dans le reste de l'actualité, je le disais, déplacer le trafic aérien domestique de Magenta vers Tontouta et fusionner Aircal et Aircalin. Ce sont là 2 pistes envisagées par le gouvernement pour sauver la compagnie domestique qui est financièrement au bord du gouffre. Le membre du gouvernement en charge du secteur, Samuel Népéoun, est d'ailleurs allé hier matin à la rencontre de la population de l'Ifouléana.
Une réunion à l'initiative de l'air coutumière Djéou pour que le membre du gouvernement, accompagné par la direction d'Aircal, puisse échanger avec la population des îles. Samuel Népéoun a d'abord indiqué que la situation financière d'Aircal était catastrophique malgré le plan de sauvegarde mis en place après la crise Covid et le plan de restructuration porté par le 17e gouvernement.
Lorsque le conseil d'administration de la compagnie a arrêté ce nouveau plan de sauvetage de la compagnie, qui, je le rappelle, prévoyait 1 milliard de fonds réinjectés par la Nouvelle-Calédonie pour éviter le dépôt de bilan de Air Calédonie mi-2024, puis derrière, la force sociale très conséquent puisque on s'est séparé de 150 personnes, on a réduit la masse salariale de près d'1,2 milliard, mais également la réduction de l'activité de près de 40%, et puis location d'un avion à Air Tahiti, histoire de récupérer un peu de liquidité pour compléter ce plan de sauvegarde. Il s'avère qu'à la fin de ça, ça ne suffit toujours pas.
Ça ne suffit toujours pas et c'est la raison pour laquelle 2 nouvelles pistes sont posées sur la table pour éviter la faillite. Déplacer le trafic d'Aircal et de Magenta vers Tontouta et fusionner les 2 compagnies calédoniennes, Aircal et Air Calédonie International. Les échanges hier à l'IFU ont porté sur ces 2 points.
S'agissant d'un sujet très sensible, par moments les discussions, les échanges ont pu être assez tendus, mais globalement c'était plutôt constructif. Il y a effectivement une grande réticence de la population, tout le travail que l'on a conduit jusqu'à présent et qu'on a essayé d'expliquer ce matin, c'était de dire entre les réticences, entre on veut ci, on veut ça, ou on veut pas ci, on veut pas ça. Aujourd'hui, c'est une question de réalité budgétaire et financière. Les collectivités n'ont plus les moyens. Depuis mai 2024, c'est une question de survie ou de sauvetage de la compagnie Air Calédonie dont il est question. Entre le confort ou les réticences de la population, il y a aussi une question budgétaire qui est inévitable. Les comptes publics sont à sec. Il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on aborde ces différents sujets est extrêmement contraignant, étendu. Il va falloir être très réaliste et être pertinent dans les choix qu'on va faire à l'avenir.
Aucune estimation chiffrée n'a été rendue publique sur les économies que permettrait de réaliser la fusion des deux compagnies aériennes calédoniennes, ni le transfert des lignes de Magenta vers Tontouta qui pourrait intervenir dès le mois de juillet prochain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. 10 mois après les émeutes du 13 mai, craignez-vous une recrudescence de la délinquance en Nouvelle-Calédonie? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à la question d'hier maintenant, 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au déplacement des vols Aircal de Magenta à Tontouta. Ils sont 21% à dire qu'ils y sont opposés. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h57, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
Grande nouvelle! Nissan réouvre ses portes dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, chez Sidaps à Ducos. Laissez-vous séduire par nos modèles conçus pour répondre à tous vos besoins. Performance, confort, technologie, tout y est. Alors qu'attendez-vous? Venez vivre l'expérience Nissan chez Sidaps à Ducos.
RRB, première radio d'information.
Info matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football et on joue la Ligue Europa avec les matchs retour des huitièmes de finale. Lyon, qui s'était imposé 3-1 à l'aller, accueille le FCSB. Coup d'envoi d'ici quelques minutes maintenant à 7h. En tennis, Arthur Fils défiera Daniil Medvedev à partir de 7h. Là aussi, il s'agit des quarts de finale des Masters 1000 d'Indian Wells. En cyclisme, une victoire française sur la cinquième étape du Paris-Nice. Lenny Martinez de Bahrain Victorious s'est imposé en attaquant à 100 mètres de l'arrivée au sommet de la côte Saint-André. Clément Champoussin d'Astana offre un beau doublé tricolore. Matteo Jorgensen de Visma Liesebike complète le podium et récupère le maillot jaune à Jonas Vingegaard qui a été victime d'une chute sur cette étape. Au programme de la nuit prochaine, 209,8 km à travers l'Ardèche, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Le profil sera assez plat avec seulement 3 petites côtes de 3e catégorie. On termine avec une bonne nouvelle française en biathlon. Julia Simon remporte une nouvelle fois l'individuel sur la course de Slovénie. La Suédoise Ona Öberg et l'Allemande Franziska Preuß complètent le podium. Et malgré une 7e place aujourd'hui, Lou Jean Monod avait suffisamment d'avance pour remporter le globe de la spécialité. Et c'est la première française de l'histoire à remporter ce globe en individuel.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, vigilance jaune donc pour ce vendredi avec un vent violent et des fortes pluies, donc des orages aux Loyautés aujourd'hui et la nuit prochaine pour un vent orienté est-sud-est pouvant atteindre les 25 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds et pour un risque d'averses fortes et orageuses. Ce matin sur l'ouest et le nord, le soleil gagnera du terrain sous un ciel parfois voilé. Ailleurs, le ciel sera gris avec quelques averses sur l'est et surtout aux Loyautés, elles seront plus fréquentes pour un risque d'orage. Alors le vent pour ce matin orienté est-sud-est autour des 15 à 20 nœuds, localement aux Loyautés il sera plus fort entre 20 et 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 35 nœuds environ. Sur l'ouest, il sera tout d'abord faible à l'abri de la chaîne, puis des bris s'installeront autour des 10 nœuds. Pour cet après-midi, sur l'ouest, le ciel sera très nuageux avec des averses isolées, ce qui seront possibles. Il sera plus chargé avec des averses isolées en général, mais plus marqué sur le sud-est et le relief. Au Loyauté, les averses pourront prendre un caractère orageux. Le vent, toujours est-sud-est, proche des 20 nœuds, localement sur le sud-ouest et la côte est, 20 à 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Au Loyauté, il atteindra, comme prévu, 25 nœuds avec des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds. Les températures, 27 à 32 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry pour ce point complet sur la météo.